Question sur le livre des juges. Et pour commencer cette prédication, je vous propose une question. Pour qui te prends-tu ? Est-ce que tu estimes ne pas avoir besoin de Dieu ? Ou au contraire, est-ce que tu penses être un cas désespéré et que Dieu ne veut pas de toi ? Pour qui te prends-tu ? C'est ce qu'on va regarder à travers l'histoire de Samson. On a commencé il y a quelques mois une série de prédications sur le livre des juges qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et on a vu dans cette série que le peuple est décadent, c'est de plus en plus mal, qu'il est de plus en plus mauvais, qu'il s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et on a toujours ce même cycle. Le peuple est opprimé et dominé par les Philistins. Le peuple crie à l'Éternel. Dieu envoie un juge pour les libérer. Le peuple oublie. Il se remet à faire ce qui déplaît à l'Éternel. Dieu leur remontre encore qu'ils se sont éloignés en les punissant. Et c'est un cycle qui descend. À ce moment-là, le peuple est opprimé encore par les Philistins pendant 40 ans. Alors l'histoire de Samson est assez particulière. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si ça vous évoque quelque chose. Moi, ce que j'avais en tête et ce que je vois avec les livres de mes enfants, c'est un type qui est entre deux poteaux, qui pousse les poteaux et tout se casse, voilà, tout tombe. Je veux dire comme ça plutôt. Tout tombe. C'est un peu l'image qu'on a, où j'ai l'impression que je peux véhiculer en lisant ça, des fois avec mes enfants. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est pas terrible, terrible. Et donc, l'histoire de Samson, il avait des parents. Son père s'appelait Manoah, sa mère, on n'a pas son nom. Un ange vient visiter la mère de Samson pour lui dire qu'elle aura un fils et qu'il sera consacré à l'Éternel pour délivrer le peuple de la domination des Philistins. Plutôt un beau programme. Et pour cela, il faut que la mère se consacre aussi, qu'elle ne mange rien d'impur. Et je la fais court, et il lui dit en grosso modo, ne bois pas boire d'alcool. Alors, les questions d'alcool qu'on a enceinte, ce n'était pas encore la même époque qu'aujourd'hui. Hein. Mais parce qu'elle était consacrée, elle ne devait pas boire d'alcool. Donc, l'enfant naît, Samson est né, et l'Éternel le bénit. Et l'histoire de Samson nous est racontée à travers trois récits, trois grandes conquêtes, mais pas des conquêtes militaires. Des conquêtes féminines. Et ces récits nous parlent de Samson qui a un appétit assez démesuré envers les femmes et avec des conséquences assez lourdes. Et il nous parle très peu de la mise en déroute des Philistins. On ne voit jamais Samson qui combat une armée et qui, avec lui, 3000 hommes pour aller combattre les Philistins. Non, bien au contraire. Son peuple va même le livrer aux Philistins. Étrange comme histoire. Comment ça va se passer ? Si on résume un peu, on va s'intéresser à la troisième conquête de Samson. Et je vous dresse un peu le portrait de Samson des premières, deuxième conquêtes pour que vous vous imprégniez de un peu l'histoire un peu bizarre. La première conquête, il va se marier avec une Philistine et c'est lui qui décide de vouloir cette femme. Il dit « Je veux cette femme parce que je la trouve jolie, donc je la veux. Père, va me la chercher. » Donc, il y a plusieurs problèmes face à déjà ça. Déjà, c'est lui qui a décidé. En plus, c'est une femme étrangère. Il n'avait pas le droit de se marier avec une femme étrangère. Et puis, comme c'était la coutume, les mariages duraient longtemps, un peu plus qu'aujourd'hui, 7 jours à peu près. Hein. Et dans les animations de mariage, une de leurs animations, c'est des énigmes. Et puis, Samson fait comme les autres, il propose une énigme aux gens qui sont autour de lui. Et donc, du coup, il sélectionne 30 personnes pour trouver une réponse à son énigme. Et forcément, c'est une énigme, c'est un peu compliqué. Le peuple, les gens qui sont autour dans le mariage, mettent la pression sur la femme de Samson en lui disant « Samson, là, il nous tend un piège, Si tu ne dis pas c'est quoi la réponse, on va te tuer. C'est un peu un mariage un peu bizarre, hein, vous entendez bien. Moi, j'espère que les gens au mariage n'ont pas dit ça. Parce que les animations étaient ce qui ne leur correspondait pas. Et bon, donc la femme, elle met la pression à Samson, elle le harcèle. Le texte nous dit vraiment qu'elle le harcèle. Samson va donner, va dire à sa femme la réponse à l'énigme. Sa femme le trahit. Mais le problème, c'est que en donnant cette énigme, il avait aussi une récompense. C'était pas des bonbons, hein, que... c'était non, je vous offrirai 30 habits de rechange, un par personne, ils étaient 30. Mais encore l'autre problème, Samson, il n'avait pas ça en stock. Il ne s'est pas dit, j'irai au magasin, acheter des vêtements, je leur offrirai. Non, comment il va trouver les vêtements? Il va trouver 30 bonhommes, il va les tuer, il va récupérer leurs vêtements pour les offrir aux personnes qui ont trouvé l'anime. Vous voyez un peu je plante le décor. Hein. Et bien sûr, entre-temps, Samson, il va tuer les bonhommes. Et qu'est-ce qui se passe à la maison? Son beau-père, il va donner sa femme à son témoin. Ça passe pas très bien non plus. Donc Samson est un peu énervé. Ce qu'il va faire, il va vouloir se venger de tous les Philistins. Hein. Donc il va mettre le feu au champ des Philistins en prenant 300 renards, 300 chacals, et puis les faisant courir avec une torche dans les champs. Les Philistins sont encore énervés parce que vous voyez le truc, ça s'envenime. Ils sont énervés, donc ils vont voir la famille, sa belle-famille. Ils vont dire, mais ton gars, là, il fait n'importe quoi. Et du coup, la belle-famille, il tue la belle-famille. Hein, il tue leur peuple. Donc, Samson, lui aussi, il est encore énervé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les tuer. Ils vont en tuer 1000. Et entre-temps, son peuple prend Samson pour aller le livrer aux Philistins. Comme ça, ils sont un peu tranquilles. Ben, ça ne marche pas. Ça, c'était la première conquête. Il y en a trois. Et vous voyez, encore une fois, on n'a toujours pas parlé de l'armée, de destruction, de délivrance. Deuxième conquête. En passant par Gaza, il voit une femme, une prostituée. Il se dit, oh tiens, j'irai bien avec elle. Bien sûr, les Philistins ont bien remarqué ça. Ils vont vouloir l'attraper. Les Philistins vont vouloir attraper Samson. Samson a compris qu'il allait se faire avoir. Donc du coup, il a tué tout le monde en faisant écrouler aussi un bâtiment. Voilà. Deuxième conquête. Troisième conquête. Sa relation avec Dalila, une Philistine. Dalila, j'ai dit quoi? Dalila, ah ouais. Alors non, c'est pas, elle ne chantait pas, enfin bref. Peut-être qu'elle a chanté par un moment. Mais... Et de cette personne, Dalila, il est tombé amoureux d'elle. Alors que les autres, on n'avait pas ce côté-là. Les princes philistins, ils voient que Samson va se marier avec elle. Et les philistins vont lui dire, il faut que tu nous livres Samson. C'est l'homme à abattre, hein, Samson. Je ne sais pas si vous avez rappelé, mais c'est vraiment quelqu'un qui est trop puissant, qui est trop fort. Si on ne le tue pas le premier, il va nous tuer. Quoi. Il y a un peu l'idée. Et donc, les princes philistins vont voir sa femme, Dalila, pour lui dire, il faut que tu nous livres Samson, sinon on va te tuer. Et en échange, quand même, on va te donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, bien sûr, sa femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le harceler pour avoir les réponses, elle va le trahir. Et qu'est-ce qui va se passer? Samson va aller en prison. Et c'est là où on va lire un peu les passages. Ça, c'était pour la mise en contexte. Vous comprenez un peu, que vous puissiez cerner le personnage, si vous ne l'avez pas, vous ne le connaissez pas. Je vous en fais un beau portrait. Si on va suivre, on va lire donc Juges, chapitre 16. On ne va pas lire les trois chapitres. Si vous voulez des Bibles, les Bibles qui sont à la sortie, les Bibles bleues, c'est sur la page 232. Si vous voulez suivre, et si vous vous levez tout de suite pour en chercher une, ça ne me dérange pas. Donc Dalila, elle va demander à Samson, dis-moi, je te prie, d'où te vient cette grande force? Et comment il faudrait faire pour te maîtriser? Et Samson lui donne par trois fois des mauvaises réponses, ce qui ne veut pas dire comment il est fort. Et il va lui dire, par exemple, il faut m'attacher avec cette corde. Il faut tresser mes cheveux sur la chaîne d'un métier à tisser et les fixer avec une cheville. Vous voyez le truc un peu robuste, hein? Et ça ne marche pas. Alors là, verset 15, elle lui dit, comment peux-tu prétendre que tu m'aimes alors que tu ne fais même pas confiance? Voilà trois fois que tu t'es moqué de moi et que tu as refusé de m'indiquer d'où venait ta force extraordinaire. » Tous les jours, on retrouve le même refrain, elle le harcelait par ses paroles et le poussait à bout par ses instances. Excédé à en mourir, il finit par lui révéler son secret. « Jamais encore, lui dit-il, mes cheveux et ma barbe ont été coupés, car j'ai été consacré à Dieu dès le sein maternel. Si l'on me rasait la tête, ma force m'abandonnerait et je deviendrais comme n'importe quel autre homme. » Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret. Elle fit prévenir les princes des Philistins en leur disant « Venez, car cette fois-ci, il m'a dit son secret. » Ils se rendirent chez elle avec l'argent promis. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis appela un homme pour lui couper les 7 tresses de sa tête. Ainsi, elle commença à le maîtriser, car il perdit sa force. Puis elle cria « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il se réveilla de son sommeil et se dit « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. Les Philistins se saisirent de lui et lui crevèrent les yeux. Puis, ils l'emmenèrent à Gaza, le ligotèrent avec une double chaîne de bronze et lui firent tourner la meule à grains dans la prison. Après avoir été rasé, ses cheveux commencèrent à repousser. Les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un sacrifice important à Dagon, leur dieu, et pour se livrer aux réjouissances. Ils disaient « C'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi Samson. » Quand le peuple le vit, il loua son Dieu en disant « C'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi qui ravageait notre pays et qui a fait tant de victimes parmi nous. » Comme ils étaient en joie, ils s'écrièrent « Appelez Samson, qu'il nous divertisse !» Ils firent sortir Samson de la prison et il dut se livrer à des pitreries devant eux. Puis, ils le placèrent entre les colonnes du bâtiment. Alors, Samson demanda au jeune homme qui le conduisait par la main, « Guide-moi, fais-moi toucher les colonnes qui soutiennent l'édifice pour que je puisse m'y appuyer. » Or, le bâtiment était rempli d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins s'y trouvaient, et sur la terrasse, il y avait 3000 personnes environ, hommes et femmes, qui regardaient Samson les amuser. Samson pria l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, je te prie, interviens en ma faveur. Rends-moi ma force une dernière fois, ô Dieu, pour que je me venge en une fois des Philistins pour la perte de mes deux yeux. » Il toucha les deux colonnes centrales qui soutenaient l'édifice et s'arc-bouta contre elles, de la main droite contre l'une et de la main gauche contre l'autre. Puis il dit « Que je meure avec les Philistins. » Puis il poussa de toutes ses forces et le bâtiment s'écroula sur le prince et sur toute la foule qui s'y trouvait. Ainsi, il fit périr plus de monde par sa mort que de son vivant. Ses frères et tous les siens descendirent pour emporter son corps et pour l'ensevelir entre Tsoréa et Ektaol dans le tombeau de Manoah, son père. Il avait été chef en Israël pendant 20 ans. Drôle d'histoire encore. À travers ce texte, je vais vous proposer trois pistes, trois idées à explorer ensemble. Dieu est généreux dans sa patience. Premier point. Ensuite, nous verrons que Dieu est généreux dans son pardon. Et enfin, on verra que Dieu est victorieux. Dieu est généreux dans sa patience envers Samson et son peuple même. On a vu que Samson est un homme qui est consacré. On a peut-être l'impression que c'est un terme un peu générique, mais c'est plus qu'un terme générique. Il y a un terme qui était possible pour eux, c'était le nazir, ce qu'on appelle le naziréen. Samson était consacré pleinement à l'Éternel par un vœu. C'est la loi mosaïque qui permettait de faire cela et qui permettait à une personne de se consacrer temporairement au Seigneur. Et pour cela, cette personne devait s'abstenir d'alcool et d'aliments à base de raisins. Et ça, c'était comme pour les prêtres. Il devait aussi s'abstenir de jus de raisin fermenté et de tout ce qui est à base de raisin. Aussi, la personne qui se consacrait ne devait pas couper ses cheveux ni sa barbe. Ça, c'était avant. Il ne devait pas se rendre impur. comment se rendre impur ? Soit en touchant un cadavre, soit en touchant un animal qui était désigné comme impur, pardon. Et même être en contact d'un mort, d'un proche parent, pour lui c'était impossible. Comme le grand prêtre, par exemple. Et si pendant son vœu il était en contact avec des choses impures ou s'il cassait quelque part son vœu, il devait tout recommencer. Il devait se raser les cheveux et tout recommencer au départ, recommencer les actes de purification et rentrer à nouveau, se consacrer à Dieu. Samson, lui, n'était pas consacré temporairement, sur une durée limitée, mais il était consacré à vie, normalement, pour l'éternel. Et on voit que dans sa patience, Dieu ne cesse de le bénir. À sa naissance, le texte nous dit que Dieu le bénit. Chapitre 13, 24. Avant d'aller proposer l'énigme lors de son mariage, au passage, il va se balader, il va déchirer un lion en deux. Bon. Et l'Éternel est avec lui. L'Éternel le bénit. L'Esprit vint sur Samson, nous dit le texte. Quand il va tuer les 30 personnes pour récupérer leurs vêtements, l'Esprit vint aussi sur Samson. Chapitre 14, verset 19. Quand Samson va tuer les 1000 personnes qui viennent le chercher après avoir mis le feu à tous les champs, là, l'Esprit vint sur Samson. Et puis, à la fin, Dieu, ce n'est pas marqué textuellement, l'Esprit vient sur Samson, mais en tout cas, Dieu aide Samson. Dieu est présent avec Samson pour faire tomber le temple. Dieu ne cesse de bénir et d'être avec lui. Et en même temps, Samson cesse de descendre. Pour son premier mariage, comme je l'évoquais, il n'avait pas le droit de se marier avec une femme étrangère. Il n'avait pas le droit non plus de demander à son père. Il n'avait pas le droit d'aller tuer des gens. Il n'avait pas le droit d'aller récupérer, il y a une histoire où il va récupérer du miel dans le cadavre du lion qu'il a tué, un peu plus tard quand il revient, au passage aussi. Il n'avait pas le droit de toucher des animaux impurs. Et justement, le texte nous dit qu'il ne le disait pas à ses parents. Il se cachait de ses parents à ce moment-là. Donc, on sent vraiment que Samson était conscient que ce qu'il faisait était mal. Il cesse de descendre. On se demande même, quelle est la différence entre Samson et le peuple des Philistins ? Dans leur comportement, quelle est la différence ? On ne la voit pas. À aucun moment, dans le cycle de Samson, des versets 13 à 16, on le voit parler avec Dieu. Ah si, allez, une fois. Une fois avant l'histoire qu'on vient de lire. Une fois qu'il a tué et il a fait tout cramer dans les champs, il va voir Dieu. Et il lui dit, comme il avait soif, horriblement soif, il pria l'Éternel et dit, « C'est toi qui as accordé cette grande victoire à ton serviteur. Me laisserais-tu maintenant mourir de soif et tomber entre les mains de ces incirconcis ?» Voilà la seule prière qu'il fait à l'Éternel. Et Dieu le bénit encore. Alors Dieu fondit le rocher creux qui se trouvait et il en jaillit de l'eau. Voilà, il reproche à Dieu, encore une fois. Mais Dieu cesse de le bénir. Et Samson ne cesse de descendre. Et à la fin du récit, on a lu les derniers versets. Dieu ne lui fait pas de reproche plus que ça. Ça peut être un peu déconcertant. Et on voit que le livre est construit comme ça. On voit le peuple qui s'éloigne, qui s'engouffre, qui s'enracine dans le mal. Et Dieu qui est là tout le temps près d'eux pour les délivrer. On voit que Samson ne cesse de descendre et Dieu qui essaye de le relever, de lui montrer qu'il est là et que c'est lui qu'il faut suivre. Et même l'Ancien Testament est rythmé par ces choses-là. Dieu a envoyé des juges qu'on vient voir, il envoie des prophètes, il envoie des rois, il envoie le Christ. Mais le peuple s'éloigne toujours plus de Dieu. En fait, Samson n'avait pas tout compris. J'ai dit qu'il cesse de descendre, il ne cesse de descendre, mais Samson n'avait pas tout compris. Au verset 17, on a l'impression que sa puissance est dans ses cheveux. Samson croit faire ce qu'il veut parce qu'il a des cheveux. Je fais ce que je veux parce que j'ai deux cheveux. Ça fait un peu ça. Je reprends mon texte. Et au verset 17, il se dit « Mes cheveux et ma barbe n'ont jamais été coupés, car j'ai été consacré à l'Éternel depuis le début. Si on me rasait la tête, ma force m'abandonnerait et je deviendrais comme n'importe quel autre homme. » Samson n'a pas encore compris que sa force venait de Dieu et non de ses cheveux. Ça pourrait paraître bête, mais Samson n'a pas compris. Il a compris que c'était lui qui était au centre. Et une fois qu'on lui a coupé les cheveux, qu'est-ce qui se passe au verset 19, au verset 20? Il remarque que Dieu s'est détourné de lui. Au verset 19, on a l'impression que sa force, justement, peut venir de ses cheveux. Mais en réalité, au verset 20, pardon, Dieu se détournait de lui au moment où on lui a coupé les cheveux. Quelque part, Dieu lui dit, mais non, c'en est trop. Il faut que tu remarques que c'est moi qui suis là. Que ma force, que ta force, c'est moi qui te la donne. Ses capacités ne viennent pas de lui-même, mais de Dieu. Samson était consacré pour délivrer le peuple. C'est là qu'il aurait dû mettre son énergie. Et les conséquences sont assez désastreuses. Les Philistins vont lui couper les cheveux. Mais pas seulement, ils vont lui crever les deux yeux. Pas seulement, ils vont l'enchaîner, mais pas avec une simple chaîne, avec une double chaîne. Le texte précise de bronze. Je ne sais pas à l'époque comment était fait le bronze par rapport à aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une précision qui est mise sur ce terme. On sent qu'on l'a enchaîné durement. Pas qu'ils partent et le mettent en prison. Samson était l'homme à abattre. C'était le Goliath du peuple d'Israël. Goliath, qui était le David et Goliath, l'histoire. Goliath, qui était un homme très fort, qui faisait peur à tout le peuple d'Israël. C'était l'homme à abattre, Goliath. Et là, c'est Samson qui est l'homme à abattre pour les Philistins. Et pour les Philistins, en capturant Samson, il capture quelque part le peuple d'Israël, leur mascotte, leur plus fort. Mais il capture quelque part Dieu, l'Éternel. Et on le voit, c'est Dieu, notre Dieu qui est plus fort par rapport au vôtre. Ils ont capturé l'homme le plus fort pour les peuples d'Israël. Et ils montrent par là que leur Dieu est vraiment plus fort que le peuple d'Israël. Samson était conscient de sa force. Mais il n'avait pas compris d'où elle venait. Et il a fallu attendre cette descente bien profonde pour s'en rendre compte. Mais Dieu est généreux dans son pardon. Dans ce cycle du livre des juges, Dieu pardonne aussi personnellement, on pourrait dire comme ça, Samson. Et on voit qu'en prison, Samson va se reconnecter à Dieu, va se repentir. Il va reconnaître sa faute. Et peu à peu, il va se reconnecter avec Dieu. Comment on voit qu'il se reconnecte peu à peu avec Dieu? On voit que ses cheveux recommencent à pousser. Sa reconsécration, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais en tout cas, il se reconsacre progressivement à Dieu en comprenant quel est son rôle et quel est le rôle de Dieu. Il comprend que ses cheveux n'étaient pas du coup sa force. Une fois ses cheveux repoussés, qu'est-ce qui se passe à la fin? Il n'agit plus seul. Il va demander à Dieu d'agir. Alors que là, il avait toujours agi de manière naturelle, tout seul. Là, il comprend que progressivement, c'est Dieu qui donne la force. Même si ses cheveux ont poussé, ça montre que la force vient de l'Éternel et pas de lui. Verset 28. « Rends-moi ma force une dernière fois, ô Dieu. » Et il m'a même demandé de l'aide à un gars qui l'a guidé. Alors que jusque-là, C'était un gars qui était plutôt arrogant, violent. Il a enfin compris que tout lui venait de Dieu. Même dans la prison, on ne le voit pas qui fait le malin comme il aurait pu le faire avant. Il ne s'énerve pas trop rapidement. En tout cas, le texte ne m'en parle pas. Et puis, ce qui nous montre que c'est reconnecté avec Dieu, c'est le verset 30. Ainsi, il fait périr plus de monde par sa mort que pour son vivant. Un peu énigmatique comme phrase. Pourquoi Dieu ou l'auteur a mis ce verset ? Parce que enfin Samson a compris sa mission, a compris qui était Dieu, a compris son rôle dans le plan de Dieu. Il délivre le peuple des Philistins. Il va prendre véritablement sa place de juge, de libérateur. Certes, de manière particulière, mais qui se trouve dans ce temple ? Tous les Philistins. Et Dieu se montre victorieux. Dieu reprend sa place de roi du monde à travers cet acte. Il remontre à tous, Philistins aussi, qui est le vrai Dieu ? L'Éternel. L'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Comme on voit dans ce temple, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, ce dieu Dagon, mais on a l'impression qu'il est vraiment important. Il est vraiment important pour plusieurs raisons. Au départ, on nous dit qu'il fait un sacrifice important, au verset 23. Ensuite, qui sont présents ? Tous les Philistins. Ensuite, on a une multitude de personnes dans la salle et une multitude de personnes sur le toit, terrasse, 2 000-3 000 personnes. Ce dieu avait quand même un sacré temple. Il était important. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Parce que Samson était capturé. Dieu, l'Éternel, était capturé par les Philistins. Mais Dieu, l'Éternel, n'a pas dit son dernier mot. Tout le monde est là pour se moquer de Samson. On l'appelle, on rigole, on se moque de lui. On a oublié que Dieu d'Israël était le Dieu de l'éternité. Et là, on a un renversement de situation. Les Philistins qui croyaient avoir le Dieu le plus fort, qui croyaient avoir capturé Dieu en capturant Samson quelque part, c'est Samson qui capture les Philistins en faisant s'écrouler le bâtiment sur les Philistins. Dieu a rétabli l'ordre. Et sans armée. Juste avec Samson. L'Éternel est victorieux dans cette situation. L'Éternel montre, ouvre les yeux à Samson. C'est un jeu de mots. L'Éternel ouvre les yeux à Samson sur sa réalité, qui il est vraiment. Une fois qu'on lui crève les yeux. Une fois qu'il remarque qu'il devait être dépendant de Dieu. Il montre aussi aux Philistins qui il est par sa puissance. Pour qui te prends-tu, Samson ? Si on revient à nos questions de départ, est-ce que tu estimes ne pas avoir besoin de Dieu ? Que tu peux très bien gérer ta vie tout seul ? Et Dieu nous lance un appel à être vigilant. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout te vient de Dieu. Et Samson, on l'a pas compris tout de suite. Avec sa force, il était arrogant, méprisant, violent. Samson n'a pas compris ce qu'il devait faire des dons que Dieu lui avait donnés, de ses capacités, que c'était pour délivrer le peuple. Il a compris à la fin que c'était pour honorer Dieu, le servir et montrer au monde autour de lui qui est le vrai Dieu. Nous aussi, en tant que chrétiens ou non chrétiens, nous sommes créés en image de Dieu, en tant que représentants de Dieu sur terre. Et Dieu nous donne des capacités, des compétences, des dons pour cela. Comment vis-tu avec ce que Dieu te donne ? Comment je vis avec ce que Dieu me donne ? J'aimerais pas qu'on attende le dernier moment comme Samson pour prendre conscience de qui nous sommes, de qui est Dieu. Au contraire, tu estimes être un cas désespéré pour Dieu, que Dieu ne veut pas de toi. Tu estimes peut-être ne rien avoir à apporter, tu n'as pas de don particulier, que tu es une sous-personne. Mais Dieu nous rappelle que c'est lui qui fait des dons et qu'il nous a créés tels que nous sommes pour l'honorer tel que nous sommes. Il nous rappelle de ne pas nous appuyer sur qui nous sommes, mais seulement sur lui. Même si nous estimons être une plus basse personne que les autres personnes, il nous appelle à nous appuyer sur lui et pas sur nous. Et peut-être que tu es désespéré de toi et que tu te dégoûtes même. Mais Dieu pardonne ce qui semble être impardonnable. La vie de Samson n'était pas exemplaire du tout. Ce n'est pas juste le super-héros avec des super-forces. C'est un super gars pourri, volage, impulsif, violent, arrogant. C'est l'anti-héros. Mais Dieu le pardonne. Non pas que Dieu ait fermé les yeux sur qui était Samson. Dieu avait pleinement conscience de Samson, de qui il était, de ses imperfections. Mais Dieu décide de pardonner Samson. Parce que Samson reconnaît son erreur, reconnaît sa dette envers Dieu, il s'en remet à lui. L'apôtre Paul écrit que Jésus-Christ est mort pour ces personnes qui reconnaissent leur dette et qui placent leur espérance en Christ. Il écrit que Christ est mort pour tes fautes, même les plus moches, même les moins avouable, que Christ souhaite te pardonner et que tu puisses vivre pleinement avec Dieu. Cette histoire est très ancienne par rapport à nous, elle est très loin, mais Dieu n'a pas changé. Dieu nous propose ce même pardon. Dieu n'a pas de variation, il est le même. Et Dieu peut aussi te pardonner, même si tu es très loin, même si tu crois être impardonnable. Dieu te pardonne et il reconnaît avec toi que tu es impardonnable. Il a pleinement conscience de qui tu es. C'est pourquoi c'est lui-même qui s'est donné à la croix pour être réconcilié avec toi. Samson a tué plus de monde par sa mort que par son vivant. Samson a compris la mission qui était la sienne à la fin de sa vie. Je vous invite à prendre un temps de silence pour réfléchir à ce que nous venons de voir.